Bonsoir à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression pour la FNSEA. Les annonces gouvernementales sont insuffisantes et le syndicat pose un ultimatum. Le salon de l'agriculture qui débute le 24 février. Avec une soixantaine de cas de harcèlement signalés depuis le début de l'année scolaire en Deux-Sèvres, les cours d'empathie doivent inverser la tendance. Ils sont testés à l'école de Serrières. Un aventurier professionnel hier soir a cerisé à l'invitation du centre des jeunes dirigeants Nord de Sèvres. Être champion du monde de son propre monde, la thématique développé par Steven Le Yarrick. L'exposition Terre d'amitié se poursuit ce week-end au château de Bressuire. Trois artistes, aujourd'hui amis, y présentent quelques-unes de leurs œuvres. Et puis l'illusionniste Touarsé Mehdi Ouazani dans les coulisses de l'Opéra de Paris. On vous expliquera pourquoi et comment.
La météo à l'issue du journal des éclaircies demain avant un dimanche nuageux. Plus les jours passent et plus l'inquiétude grandit.
Au sixième jour des recherches, toujours aucune nouvelle d'Erwan. Ce jeune homme de 18 ans, originaire de Gâtine, disparu de la discothèque La Morinière dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Ce vendredi, avec un dispositif qui tend à s'alléger, 44 gendarmes et une dizaine de bénévoles de la sécurité civile ont ratissé l'est de Montcoutant-sur-Sèvre. Secteur Moutier-Chantemer, La Chapelle-Saint-Étienne, jusqu'au domicile de la famille à Sauré, à la recherche d'éventuels indices, mais donc sans résultat. Des secteurs déjà ratissés l'ont de nouveau été. Cinq plongeurs ont encore une fois, et une dernière fois ce vendredi, sondé des plans d'eau alentour, puisque sauf nouvel élément, leur mission se termine ce vendredi. Ce n'est pas pour autant que les recherches vont être stoppées, mais le dispositif va de nouveau être revu à la baisse, avec une vingtaine de militaires qui seront déployés sur zone durant ce week-end. En parallèle, suite à la plainte déposée par la famille contre la boîte de nuit, le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled, indique, nos confrères du Courrier de l'Ouest, avoir ouvert une enquête pour non-assistance à personne en danger, confiée à la brigade de recherche de Parthenay. Enquête qui s'ajoute à celle ouverte pour disparition inquiétante.
Les agriculteurs maintiennent la pression sur l'État.
15 jours après les mobilisations agricoles, le feu couve toujours. Et c'est ce qu'ont voulu rappeler à la préfète des Deux-Sèvres, les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Cette semaine, les deux syndicats accueillaient la préfète Emmanuelle Dubé sur une exploitation située sur la commune de La Crèche. Ils en ont profité pour lui présenter leurs propositions pour améliorer la situation. En tout cas, pour le président de la FNSEA, ce que propose pour le moment le gouvernement est insuffisant. Denis Mousseau, au micro de l'E4B.
Le compte n'y est pas, tout simplement, parce qu'on a rappelé des engagements de l'État qui, aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur. Hein, notamment, on est revenu un peu quand même sur les éco-régimes. Donc, il manque 20 euros de l'hectare. On est conscient que certaines mesures seront sur le long terme, auront une visibilité sur le long terme. Et aujourd'hui, les retours de l'État sont beaucoup trop frileux. Donc au-delà de montrer une impatience, nous demandons à l'État une efficacité. Donc la date butoir, on l'a dit, c'est le salon de l'agriculture. Mais d'ici le salon de l'agriculture, il reste encore 10 jours. Et certaines avancées, pour l'instant, ne donnent pas le signe qu'il va se produire grand-chose. On est dans une forte attente. L'État doit nous apporter des réponses avant le salon de l'agriculture, pendant le salon de l'agriculture. Et je l'ai rappelé, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Les agriculteurs ont besoin de visibilité, de lisibilité sur l'avenir, pérennité des exploitations, on a parlé installation. Donc il faut donner une ligne de vie à notre agriculture départementale, mais aussi française.
Certains agriculteurs n'ont pas attendu le salon de l'agriculture pour exprimer leur impatience. Depuis hier matin, les JA bloquent, je vous le rappelle, la base logistique Système U des Deux-Sèvres à Braec. Cette action devrait d'ailleurs se poursuivre encore demain matin. Inscrit dans le cadre du plan de lutte nationale contre le harcèlement et avant leur généralisation à la rentrée de septembre 2024, des cours d'empathie sont testés dans 5 écoles sur l'Académie de Poitiers. Reportage signé Jacqueline Pinon.
Et c'est le cas à l'école Les Abeilles de Serrières, première en Deux-Sèvres à l'expérimenter. Il faut dire que cette école de 68 élèves était déjà mobilisée sur ce sujet. Exemple dans l'une des trois classes des abeilles, avec les élèves de CP, CE1, CE2 et leur enseignante Aurélie Brosset.
Là, ils sont par deux, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Et cette prise de conscience des qualités qu'ils peuvent avoir peuvent les aider par la suite à mieux s'apprécier et à avoir confiance en eux. Et être capable d'exprimer de l'empathie d'une manière ou d'une autre.
Des séances suivies ce jeudi par la directrice académique des services de l'éducation nationale, Véronique Gugari.
D'abord, je vois des enfants qui sont très actifs, qui travaillent deux par deux, qui s'intéressent à la fois à ce qu'ils sont et à ce qu'est leur camarade. Ils sont dans l'entraide. Ils sont aussi dans la découverte de certaines de leurs qualités qui ne leur apparaissent pas évidentes, finalement, tant en termes de compréhension qu'en termes de langage. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit bien qu'ils confortent là, réellement, concrètement, des compétences et notamment l'empathie.
On rappelle que c'est dans le cadre du dispositif lancé contre le harcèlement.
Effectivement, c'est une des composantes parce qu'on peut traiter effectivement les cas de harcèlement auxquels on est malheureusement confronté, mais l'important c'est quand même d'être dans la prévention.
Et déjà des résultats visibles, estime le directeur Vivian Chauvigné.
On l'a mis en place depuis déjà 2 mois et on voit qu'il y a une évolution un petit peu sur le comportement des élèves.
Et sur toutes les classes d'âge là ?
C'est un souci qui était principalement avec les classes les plus grandes, donc c'est là où on voit l'amélioration.
Qu'est-ce qui vous apporte en plus vos dispositifs par rapport à ce que vous faisiez ?
Disons qu'on cherche plus avec les plus grands à réfléchir un petit peu à ce que leur comportement entraîne comme conséquence et comme ressenti chez l'autre élève.
On mesure d'autant mieux l'importance de l'enjeu avec ce chiffre donné par la DAZN, une 60aine de cas de harcèlement comptabilisés depuis le début de l'année en Deux-Sèvres, toutes classes confondues. Un agent de l'éducation nationale est depuis un mois chargé de traiter tous les cas de signalement avec un objectif, supprimer la souffrance dans les écoles et sur toute la durée de la scolarité, précisait encore Véronique Guguiari.
Merci beaucoup, reportage complet, signé Jacqueline Pinon.
Un aventurier professionnel invité hier soir de la plénière du Centre des jeunes dirigeants Nord-Deux-Sèvres.
Une soirée autour du conférencier Steven Le Yarrick, solide coureur cycliste de DN1 au début des années 2010. Ce dernier aurait pu côtoyer le monde des pros, mais a arrêté brusquement le vélo pour s'essayer au triathlon, jusqu'à intégrer le service communication de la fédération lors des JO de Rio de 2016. Mais finira par craquer, dégoûté du sport de haut niveau. Il a alors décidé de tout plaquer et de s'envoler pour le Népal sans billet de retour. Steven Le Yarrick.
Des burn-out à répétition, un peu de mal-être global et une envie profonde d'être heureux, quoi. Et en passant du temps au Népal, passant du temps en monastère, je me suis rendu compte que j'avais juste besoin d'être apaisé, juste besoin de transmettre des choses qui sont importantes pour moi, d'essayer de transmettre aussi des valeurs qui me sont chères et qui font bouger les gens dans le bon sens, enfin ce que j'estime le bon sens. Et voilà, j'avais du mal à continuer cette vie qui n'était absolument pas la mienne. Et le déclic profond, ça a été les Jeux Olympiques de Rio, où je suis responsable de la communication d'une fédération. Et je me rends compte que j'arrive plus à vivre dans ce monde-là. Donc j'ai tout changé, j'ai un peu pivoté pour vivre la vie que je vis aujourd'hui.
Parleriez-vous d'une seconde naissance ?
Ah ouais, je pense que c'est une seconde naissance et c'est aussi me réaliser, donc devenir peut-être celui que je devais être. J'ai survécu au malheur pour arriver là où je suis aujourd'hui, beaucoup plus heureux que je ne l'étais.
Aujourd'hui métamorphosé, Steven Le Yarrick, au-delà des défis sportifs qu'il se lance chaque année, assure aussi en parallèle des conférences en s'appuyant sur son vécu, comme il le pense profondément. Nous pouvons tous être champions du monde de notre propre monde.
On a tous les moyens d'être champions du monde de son monde, champions du monde de son bonheur, champions du monde de sa famille, champions du monde de sa boîte, et surtout champions du monde de soi-même, parce que on a tous quelque chose à se révéler, à réaliser et puis à faire. Donc voilà, moi c'est ça le message que je veux faire passer, et surtout aller au bout de vos rêves, parce qu'il n'y a rien de plus beau et voilà.
Ça peut être que bénéfice pour l'entreprise.
Ah mais évidemment, je pense que si on avait que des gens heureux, je pense que la vie elle serait un peu plus simple et tous les gens seraient un peu plus apaisés individuellement et collectivement.
L'aventurier Steven Le Yarrick, invité hier soir du Centre des jeunes dirigeants Nord-Deux-Sèvres, à Cerisay, non satisfait d'avoir traversé les plus grands massifs montagneux du monde. Ce dernier s'est lancé un nouveau défi, un projet qu'il a baptisé 666, à savoir traverser en vélo les 6 déserts les plus durs du monde en un mois à chaque fois, après le désert de Gobi en Mongolie, celui de Namib en Namibie et celui d'Atacama au Chili il y a tout juste un mois. Il vise maintenant le désert d'Australie, 4000 km à couvrir sous des températures à 55 voire 60 degrés.
On lui dit bon courage. L'exposition Terre d'Amitié se poursuit ce week-end au château de Bressuire.
Samedi et dimanche de 14 à 18 heures, vous allez pouvoir découvrir, si j'ai déjà fait, plus de 200 œuvres, céramiques, peintures et autres sculptures. Chantal Planchot, Jean-Marie Cour et Guy Guérineau présentent trois styles bien différents, mais se sont rapprochés autour de la pratique de la céramique au raku, une technique que Jean-Marie Cour a enseignée à ses deux élèves, devenus aujourd'hui des amis, et il est ravi d'exposer avec eux.
Oui, je donnais des cours à la poterie de Saint-Porchaire et il y a déjà plus de 30 ans que Chantal et Guy sont venus s'inscrire pour apprendre à faire de la poterie. Et puis on s'est liés d'amitié, plus particulièrement autour de la technique du raku. L'avantage du raku, c'est qu'on fait une cuisson vraiment ensemble et où on sort les pièces quand l'émail est en fusion. Alors entre 950 et 1050 degrés, on sort ça avec des pinces et on enfume dans des bidons où il y a de la sciure, des copeaux, ou de la paille ou des papiers journaux. Et tout ça donne une réduction d'oxygène pour enfumer la pièce où il y a des craquelures qui apparaissent par la suite qui vont noircir, où il y a des pièces qui sont cuivrées et peuvent être plus ou moins métallisé.
Si Jean-Marie Cour multiplie les styles, Guy Guérineau excelle dans ses œuvres délirantes. Ce dernier associe la céramique à des objets issus de la récupération. On fera d'ailleurs un focus sur son travail dans une prochaine édition. Chantal Planchot pratique, elle, la peinture avant de découvrir la céramique. Depuis, elle multiplie les allers-retours entre ses toiles très colorées et ses raku en noir et blanc. Elle salue l'enseignement apporté par Jean-Marie Cour et tous les membres de la poterie de Saint-Porchaire.
Quand j'ai rencontré Jean-Marie, je ne connaissais pas, pour ainsi dire, la poterie. J'avais juste fait une toute petite découverte il y avait des années. Mais là, j'ai découvert vraiment avec lui complètement toutes les techniques de A à Z de ce que je sais faire. C'est grâce à lui. Grâce à lui et aussi maintenant ceux qui sont à la poterie. Parce qu'il y a quand même, on continue de travailler.
D'ailleurs, vous mettez en valeur tous ceux qui œuvrent au sein de la poterie.
Absolument. Et il y a beaucoup d'échanges. Il faut savoir aussi que lors de cette... ces moments que l'on partage à la poterie, on a beaucoup d'échanges. On peut donner beaucoup d'informations les uns les autres et ça participe à un enrichissement.
L'exposition Terre d'Amitié se poursuit ce week-end au château de Bressuire. Vraiment, nous vous la recommandons.
L'illusionniste Toircé Mehdi Ouazzani dans les coulisses de l'Opéra de Paris.
Prince du close-up, c'est-à-dire des tours de passe-passe au nez et à la barbe des spectateurs. Le magicien Toircé Mehdi Ouazzani vient de franchir une étape supplémentaire dans son ascension vers la célébrité. Auteur de plusieurs pièces, il donne en effet des spectacles en région parisienne et c'est là qu'il a été repéré par l'Opéra de Paris qui donne le ballet Casse-Noisette en version allégée pour séduire un nouveau public. Mehdi Ouazzani y participe en coulisses car n'est pas prêt à enfiler ni un tutu, ni des ballerines comme il le confie non sans humour au micro colline de notre correspondant Toircé Dominique Hérault.
On m'a demandé d'apprendre à un danseur étoile à faire de la magie. Alors évidemment, moi je rentre pas là-bas pour danser, je danse comme une enclume. Mais par contre, l'idée de Karl Paquet, qui est danseur étoile à l'Opéra de Paris, était de créer un spectacle qui puisse rassembler toutes les générations et qui fasse venir éventuellement des enfants des plus jeunes à l'opéra. Et donc ils m'ont demandé de travailler sur un numéro de magie d'une minute trente. Le but n'était pas de faire des tours de cartes, c'était des tours de lévitation, d'apparition, mais des choses qui nécessitent une gestion du corps justement. Alors là, c'était le bonheur parce que c'est un homme qui connaît déjà parfaitement son corps et sa gestion. Ça a été assez simple, en fait, de lui transmettre les secrets. C'est allé assez vite, il a vite compris.
L'élève était donc assez doué. Plus près des Deux-Sèvres, le magicien Toircé occupe une autre scène, dans les couloirs de l'hôpital Nord-Deux-Sèvres cette fois, où il apporte l'intérêt et l'apaisement aux enfants qui souffrent de troubles psychologiques. Il leur offre une jolie parenthèse avec le même entrain qu'il déploiera lors de la soirée cabaret du samedi 9 mars à la salle des fêtes de Thouars Saint-Radegonde, à l'invitation du Rotary. Il y sera entouré de plusieurs artistes pour une action en faveur des enfants hospitalisés et la recherche sur les cancers pédiatriques. Car s'il y a bien une chose qu'il n'arrive pas à faire disparaître, c'est bien sa générosité. Reportage signé Dominique Hérault.
Le lancement de l'année des Jeux ce soir à Bressuire.
Au programme, à partir de 20h tout à l'heure à la salle Omnisports de Valette, des spectacles gymniques avec la participation de 110 gymnastes de l'Avant-Garde de Leterme, de la Givrandmay, de Sport Jeunesse de Breuil-Chaussée et de la Gym Tonique de Chambrouté. Des démonstrations de danse hip-hop seront également au programme de cette soirée qui permettra de dévoiler le programme de l'année des Jeux. Dans le cadre du salon à la ferme organisé par la Confédération Paysanne depuis quelques années maintenant, la ferme au loin, au lieu dit la Gourde, temporaire de Combran organise des portes ouvertes demain, samedi, de 14 à 18 heures, notamment sur la thématique cette année de la souveraineté alimentaire. Au programme, visite de la ferme, goûter et atelier de fabrication de tisane aux alentours de 16 heures, réservation très fortement conseillée. Des produits seront disponibles à l'achat sur place. Info et Reza au 06 31 24 17 02.
Le sport, les Chamois jouent à Cholet ce soir.
Après la victoire face à Nancy, les footballeurs niortais ont eu peu de temps pour préparer ce court déplacement. C'est la lanterne rouge de ce championnat de national. La rencontre de ce soir aura lieu sur un terrain synthétique à 19h30. À suivre également ce soir un match en Régional 2 entre Parthenay et Montcoutant. Coup d'envoi à 20h30. En basket, la salle de l'Arceau de la Séguinière sera pleine comme un neuf demain soir pour les huitièmes de finale du trophée Coupe de France entre l'équipe locale et Tourcoing qui évolue en National 2, un niveau au-dessus de l'équipe du Maine-et-Loire.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Régime d'éclaircies et temps sec se sont installés depuis le milieu de la journée.
Soleil et nuages inoffensifs se partageront également notre ciel demain samedi. Peut-être un peu de brouillard en début de journée. Du côté des températures, 4 à 6 degrés sont annoncés au lever du jour, 14 voire 15 pour les maximales. Et puis, nous aurons un dimanche très nuageux, de la pluie est annoncée, plutôt dans l'après-midi. Les températures dimanche, 5 à 8 au petit matin, 11 à 13 au meilleur de la journée.
Et voilà pour l'actu près de chez nous, ce vendredi 16 février. Merci Patrice. Le retour, bien sûr, demain matin.
Samedi, demain samedi à 8h avec Fabien Gazot. Bon début de soirée avec Coline. Bon début de week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 7h.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.